Rugby show, rugby show,
ça va te donner très chaud.
Rugby show,
ça s'écoute entre poteaux.
Rugby show,
en métro ou au boulot.
Rugby show,
des débats et des pronos.
Rugby show,
bienvenue au rugby show.
Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai abandonné la semaine dernière, Elios a été forcé de faire une intro. Bon, merci à toi Elios de t'être frotté à l'exercice et merci à tous pour vos messages. Vous m'avez demandé de revenir rapidement car l'épisode manquait de saveur. Je rigole évidemment, on est très très content d'être en studio aujourd'hui pour conclure sur ces 4 grandes années de l'entraîneur du 15 de France Fabien Galthié. Un épisode où le temps a commencé à faire son travail et nous a permis de digérer l'élimination en quart de finale et nous permet de tirer le bilan des années Fabien des 4 dernières années du 15 de France. Autour de la table, vos chroniqueurs préférés que vous attendez chaque semaine avec impatience, Elios Rambouilletiste et Thomas Data Scientist, comment ça va les gars?
Oh ça va, on est chaud gros.
Oh ça va super, comme tu l'as dit, c'est deux trois petites semaines de pause nous ont permis de faire le deuil et de cicatriser la blessure.
Blessure donc qui cicatrise doucement. Jeudi, Fabien Galthié donnait une conférence sur le bilan de ses années d'entraîneur et sur la Coupe du Monde. On va en parler au fil de l'épisode en abordant plusieurs sujets aujourd'hui. D'abord, discuter un peu de l'équipe de France d'il y a 4 ans, de l'ère avant Fabien Galthié. On abordera ensuite le chemin parcouru avant la Coupe du Monde, hein, donc les 4 ans du mandat de Fabien. On abordera évidemment la Coupe du Monde en soi et la cicatrice. La cicatrice, comme aime le mentionner Fabien. Et enfin, on se projettera doucement vers l'après-Coupe du Monde sur l'arrivée imminente du tournoi Destination. On conclura l'épisode avec l'ouverture d'un paquet mystère dont on vous en dira peu plus avec notre partenaire Un Bon Maillot qui vous réserve quelques surprises.
Oh, tu dis une cicatrice, mais c'est encore une plaie chez moi, gros.
C'est encore une plaie, c'est vrai que ça a du mal à cicatriser. Messieurs, dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder ce qui s'est passé avant l'arrivée de Fabien Galthié à la tête de l'équipe de France de rugby, les 4 années qui ont précédé l'arrivée de Fabien, les 4 années de Jacques Brunel. Et on parlera ensuite, si vous êtes d'accord, du chemin parcouru par Galthié jusqu'à la Coupe du Monde et de sa mission, son envie de fédérer, partager et rassembler. Et on vous abandonne pas, et dans cet épisode, mais une partie 2 de cet épisode qui sortira dans quelques jours, on abordera la Coupe du Monde de Fabien Galthié, un peu une analyse de la prépa physique, de l'expérience collective, du pic de forme, et enfin évidemment on se tournera vers l'avenir et on regardera ensemble si l'avenir est joyeux, radieux, ensoleillé. Ou si l'avenir est sombre, aussi sombre que cette défaite en quart de finale. Messieurs, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec l'équipe de France d'il y a 4 ans. L'équipe de France, il y a 4 ans, on est sous l'ère Jacques Brunel. Et j'ai une question pour vous, messieurs, peut-être, pour ce débat. Est-ce que Jacques Brunel vous manque ?
Les mots de Jacques Brunel. Jacques, que ce fut dur ce soir, que ce fut dur face à ces joueurs fidjiens qui ont dominé physiquement et tactiquement aussi.
Il n'y a rien à dire. Hein. On a pris une leçon ce soir depuis la première minute. On n'est pas bien rentré dans la partie. Ils étaient plus forts que nous physiquement. Ils ont dominé dans les collisions, dans les impacts. Ils ont été plus entreprenants que nous. Il n'y a absolument rien à dire.
Oh putain, il ne me manque pas du tout, Jaco. Et... Quand Galthié, il y a 4 ans, il intègre le staff de Brunel pour la Coupe du Monde et qu'on sait que ça va être lui le sélectionneur pour les 4 années à venir, on se dit mais vivement que ça se termine. On a eu Brunel, on a eu Lièvremont, on a eu PSA, on a eu tout le monde.
La seule chose qui me manque chez ce bon vieux Jacques Brunel, c'est sa moustache à la limite. C'est le seul héritage, je pense, qu'on a gardé de lui. C'est vrai que la moustache est à la mode depuis son départ. Je ne sais pas si c'est... Si ça a un lien, mais non, il nous manque pas forcément. On n'était pas forcément fan de lui, de ses coachings, de ses choix. Et bon, quand on voit un peu dans quel état il nous a laissé après la Coupe du Monde en 2019, voilà, on peut féliciter Fabien quand même.
Jacques Brunel, sur un bilan purement en Coupe du Monde, il fait la même performance que Fabien Galthié, puisqu'il sort en quart de finale contre le Pays de Galles. Et défaite presque encore plus amère, parce que tu sors alors que tu fais une énorme première mi-temps contre le Pays de Galles. Je pense qu'on mène 23 à la mi-temps et qu'on perd 21-20, quelque chose comme ça, avec un carton rouge de Vahamaina. Celui-ci, il commence à être une cicatrice. mais on s'en souvient comme de l'élimination en 2015, encore en... en quart de finale, mais on a passé quand même 10 ans de l'équipe de France était en grande détresse. Comment tu l'as vécu, comment tu les as vécu ces années 2010, Elios, toi, grand fan de rugby?
Ah bah, moi j'ai malheureusement pas beaucoup de souvenirs très très positifs de ces 10 années. J'ai découvert le rugby moi en 2006 et de 2006 à 2010 on a bien vibré, mais de 2010 à 2019, ouais, comme tu le dis, c'était dur. Hein. Moi j'en ai passé des soirées au Stade de France à se cailler le cul, avoir des défaites à domicile avec un stade à trois quarts plein, des illusions.
Et au périph' avec le bruit des voitures derrière, tu comprends pas ce qui se passe dans le stade.
T'as le courant d'air qui arrive en pleine nuque, en plein février.
Tombé malade pour des défaites encourageantes, ça faisait bizarre.
Laisse tomber. Mais moi, surtout, ce que je retiens de ces périodes difficiles, de ces 10 années difficiles, c'est la peur, en fait. Moi, j'avais peur avant d'affronter les Gallois, j'avais peur avant d'affronter les Irlandais, j'avais peur avant d'affronter les Anglais. Et Thomas, si tu veux, on reparlera de ce match France-Pays de Galles en 2019. Et moi, j'étais au stade au Japon, là, avant le quart de finale en 2019, et j'avais peur des Gallois, tu vois, les mecs, ils nous chambraient, ils nous intimidaient, et on se sentait réellement inférieur à eux, et ça fait du bien maintenant de regarder un peu les autres équipes de haut, ou alors, avec toute humilité, de la regarder dans les yeux, tu vois, mais moi, c'est surtout la peur que je retiens de ces 10 années, ouais.
Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans, devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tronches.
C'était justement une grande ambition du rugby de Fabien Galthié et de son arrivée à la tête du 15 de France, refaire de la France une équipe majeure du rugby mondial, refaire de la France une équipe dans le top du rugby mondial. Et c'est justement ce chemin qu'a essayé de parcourir Fabien au fil des années, donc depuis 2019, avec une mission principale qui s'est donnée d'abord, essayer de fédérer, partager, rassembler un peu les Français. Et on peut se dire un peu de ce côté-là, en tout cas, que c'est une mission accomplie avec des stades pleins, avec des pics d'audience. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas ?
Bah ouais, vous l'aurez compris, on a vécu 10 ans extrêmement difficiles. En 2019, la situation, c'est on a une Coupe du Monde à préparer à la maison. Les stades sont à moitié vides et là, on a 4 ans pour se remobiliser. Alors, ce qui est génial, c'est que en 2019, quand Fabien Galthié prend les commandes, il a une équipe donc il y a 4 ans qui a 24 ans de moyenne d'âge. Et donc, on se dit, OK, c'est un renouvellement de génération. Il y a quelque chose à faire. On voit déjà émerger des noms comme Dupont, Ntamack, Olivon, qui ont fait la Coupe du Monde en 2019, qui ont brillé. Et assez rapidement, bah, on commence à s'imposer petit à petit dans le tournoi destination. Et donc, effectivement, il y a une mission qui est très claire. Et tout de suite, la plupart des Français vont adhérer au projet de jeu de Galthié. Ils vont adhérer à cette identité de l'équipe de France. Et effectivement, ça fait 4 ans qu'on a des beaucoup plus belles années que ce qu'on avait jusqu'à présent. N'est-ce pas, Elios?
Totalement. Et Clément, moi, je voulais rebondir justement sur vraiment ce mot fédéré. Galthié, on sait que c'est un peu sa pierre angulaire. Il l'a répété depuis plein d'années. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça qui a fait, entre guillemets, bon, même si on sort en quart de finale, qui a fait le progrès de l'équipe de France. C'est ça, c'est que Galthié et son staff et son équipe et son projet, ils ont réussi à rassembler le rugby amateur, la Ligue nationale de rugby qui gère les clubs professionnels et la Fédération française de rugby. Et,
politiquement.
C'est ça. Et en fait, il faut savoir que surtout ce qui nous portait défaut et ce qui nous mettait dans la difficulté entre 2010 et 2016-17, c'est qu'il y avait une grosse concurrence entre la Ligue nationale de rugby qui gère les clubs professionnels, donc là où tous les joueurs de l'équipe de France jouent, parce qu'ils jouent tous en top 14 dans le championnat local, contrairement au foot par exemple. Et de l'autre côté, tu avais la Fédération française de rugby qui gérait l'équipe de France. Et niveau disponibilité, les clubs pro prêtaient pas forcément les joueurs pour les préparations de match. C'était compliqué pour l'entraîneur du 15 de France de vraiment bâtir un projet solide dans la durée. Et Galthié, ce qu'il a réussi à faire, c'est justement fédérer ces deux corps institutionnels qui sont la LNR et la FFR. Et du coup, ça a fait que il avait les joueurs à disposition beaucoup plus souvent, des joueurs beaucoup plus frais. Des clubs en totale collaboration, et c'est ça aussi qui a fait que, comme tu dis, il a réussi à fédérer, et c'est ça un des facteurs de notre réussite actuellement.
Effectivement, il y a eu un accord de signé entre la LNR et la FFR qui permettait la mise à disposition de 42 joueurs pour les périodes internationales. Donc du lundi au mercredi, on pouvait travailler à 42, ça permettait à des joueurs d'intégrer le groupe France. Et après, le mercredi soir, t'avais 8 joueurs qui rentraient en club, 8 ou 9 joueurs. Et donc pour les week-ends de match, on était 33 comme prévu d'habitude. Mais ça, c'était un cadre de travail extrêmement confortable. Et tu l'as dit, ça nous a fait un peu changer de dimension. Ça a fait intégrer pas mal de nouveaux joueurs dans cette équipe de France. Mais moi, la question que j'avais envie de vous poser, les gars, on parle d'une génération génération dorée, donc qui arrive après la Coupe du Monde, qui a 24 ans de moyenne d'âge, des nouvelles conditions de travail. Mais est-ce que c'est pas en réalité Bernard Laporte qui a permis de progresser
au-delà?
Bon, maintenant, on se fie un peu. D'accord, on va mettre un peu de rythme. Ah, c'est marrant, on va y aller, c'est pas de record, t'as mis sur les touches, on va y aller le premier. Et ça va redémarrer, là. Et ça va redémarrer. Et on va les respecter, on va pas faire de faute. C'est clair, ça? Je sais même pas de quoi on peut parler. Je sais même pas de quoi on peut parler, les gens, on a rien fait. Vous voulez qu'on parle de quoi? De moi, des touches, des mêlées, je sais pas, moi. On a rien fait. Dominguez, record, il fait une passe. À 3 tonnes, Dominguez, il prend le ballon, il se retourne. Pied gauche, il tape. On est capable de le presser, là. Merde! On se prend pour qui?
C'est pas lui qui, justement, il a permis de signer ses contrats. Bernie, on lui a bien craché dessus ces dernières années. Mais au final, est-ce que c'est pas lui, le vrai mec, qui nous a sorti un peu de cette merde entre la LNR et la FFR?
Peut-être un peu, en vérité, Bernard. Bernard, on peut pas tout lui retirer. Non, on sait pas exactement comment se sont passés les jeux politiques dans l'ombre. On sait que Bernard a eu un rôle et que tous les dirigeants de Top 14 ont aussi accepté, mine de rien, de...
100%.
De se rassembler autour d'un projet commun et de voir le groupe France comme quelque part un groupe au-dessus des enjeux de leurs équipes et de Top 14. Accepter de prêter des joueurs, avec plus de temps, c'est quand même des énormes sacrifices. Mais en tout cas, vous le dites, les gars, le projet fédéré rassemblé, un peu philosophique de Fabien a fonctionné. Le projet politique de Fabien a fonctionné aussi, de Fabien et de son staff, hein, j'entends, de Bernard, de Bernie, comme tu dis, Thomas, etc. Le projet politique. Mais il y a aussi, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, le projet sportif. Fabien, on se l'est dit, il voulait que le rugby français redevienne, enfin que la France redevienne une nation majeure du rugby français. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que la France, dans les 4 années avant la Coupe du Monde, est redevenue une nation majeure du rugby français?
Moi, j'aimerais bien, les gars, vous exposer quelques stats justement pour illustrer mon propos. Fabien, en 2019, faut savoir qu'il nous récupère. On est 9e du classement IRB. Il nous a fait monter à la première place de façon très éphémère. On a un peu jonglé entre la 2e et 3e place. Là, je crois qu'on est 4e, non? C'est ça, après notre défaite.
4e post-Coupe du Monde.
Ah, bah, l'élimination en quart, c'est sûr qu'elle rapporte pas beaucoup de points.
Une fois, moi quand j'étais petit, quand je voyais l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie être premier, deuxième, troisième, ça faisait rêver. Et Fabien, il nous a vendu du rêve, tu vois, parce que quand tu vois la France s'asseoir sur le podium du rugby mondial, ça fait plaisir. Et aussi une autre statistique qui va dans son avantage, c'est qu'on a gagné 80% des matchs avec Fabien Galthié. Donc je sais, mais j'ai pas en tête.
Ah, ça, il a cessé de le répéter, hein, pendant la conférence. Hein.
Parce qu'au final, qu'est-ce qui reste, ce sont les chiffres, hein. Les hommes mentent, mais pas les chiffres, comme Thomas aime bien le répéter. Et moi, j'ai pas les pourcentages de victoires de Saint-André, de Noves ou du Moustachu en tête, mais je pense que c'était bien moindre. Et surtout, une stat que Galthié a ajoutée, que j'adore, c'est qu'on fait que uniquement 7 défaites sur 45 ou 50 matchs, 9 défaites, pardon, sur 50 matchs, et 7 uniquement avec moins de 3 points. Donc il y a que 2 matchs, entre guillemets, où on prend une branlée, tu vois. Et donc tu vois quand même la très très nette amélioration, et ça, on peut que s'en réjouir, hein.
Je peux préciser ton propos pour nos auditeurs, ceux qui nous regardent. Donc 9 défaites effectivement et 7 à seulement une marque.
Ah, une
parfois
marque.
C'était un essai, parfois c'était à une marque. Et donc il y a 5 matchs qui se sont joués à 3 points ou moins. Donc il y a eu 2 matchs contre l'Australie pendant la tournée, je sais pas si vous vous souvenez. 2 matchs contre l'Angleterre, un pendant le Six Nations, un pendant la Nations Cup. Et après il y a eu ce fameux match contre l'Afrique du Sud en quart de finale.
Celui de l'Afrique du Sud, je me rappelle pas.
C'était quand ?
On a jamais pris de branlée parce que le plus grand écart, c'était contre l'Irlande, 13 points chez eux cette année pendant le tournoi. Bon, on prend un essai sur la fin et on est quand même combatif sur ce match. Et on en prend quand même 11 aussi contre l'Écosse. L'Écosse, c'est quand même l'adversaire qui nous a le moins réussi parce que c'est celui contre qui, tout simplement, on a le plus perdu, 3 défaites. Alors que nous, en tant que Latins, on est meilleur contre les grandes équipes et contre les équipes. L'Écosse est maintenant une grande équipe, mais on les regarde quand même un petit peu de haut. Bah, je pense que ça nous a fait du bien de perdre contre eux 2-3 fois.
Après, Clément, tu parlais de la réussite sportive. On y a mis les ingrédients aussi. Faut savoir que la FFR, ils ont beaucoup, beaucoup investi dans l'équipe de France de rugby. Ils ont élargi le staff considérablement. Je pense qu'on a un des plus gros staffs de la scène internationale. On a 5 data analystes d'une entreprise de conseil qui s'appelle Capgemini qui sont à plein temps sur l'analyse des données de l'équipe de France et des équipes que l'équipe de France va rencontrer. Donc,
on les embrasse d'ailleurs.
Donc financièrement aussi, on s'est donné les moyens de passer une marche au-dessus. Quoi. Donc,
complètement.
Ça explique aussi la respect.
Et qui a donné ses moyens financiers? C'est Moed Altrad. Comment Moed Altrad est arrivé? Encore Bernard Laporte, les gars.
Mais ouais.
je vais pas vous la reposer la question.
C'est sûr.
Bernard Laporte,
les gars.
Pièce maîtresse.
Honnêtement, Bernie, attends, mais juste pour finir sur Bernie, on lui chie dessus, mais au final, le gars, il nous a fait une Coupe du Monde à la maison, il nous a ressuscité l'équipe de France. Bon, il se prend un petit chèque de 100 000 euros dans la poche pour aller faire Mumuse et se construire un Algeco dans le sud-ouest, mais bon, c'est sympa, quoi. Nous on accepte, hein, le trade-off. T'es tombé love d'un voyou, t'es tombé love d'un voyou, ça doit finir entre nous.
Les gars, peut-être le dernier point un peu sportif dont il faut qu'on parle ces 4 dernières années, c'est une génération dorée, mine de rien aussi. Fabien a pu aller taper dans des ressources humaines qui font vibrer et qui nous sont enviées par d'autres équipes internationales. Et ça, a priori...
Ouais, a priori. la génération dorée, bah, t'es... Oui, la génération était dorée, on a peut-être jamais eu autant de bons joueurs en équipe de France. Est-ce qu'on aurait fait moins bien sans Fabien Galthié avec cette génération dorée?
Je te le demande, il aurait fallu faire de l'A/B testing et avoir un métaverse dans lequel Fabien Galthié n'était pas entraîneur.
On nous voit mal sortir en poule de la Coupe du Monde avec ces joueurs-là, peu importe l'entraîneur. Hein. Franchement, Clément, je te mets entraîneur de l'équipe de France demain, on sort des poules.
Oui, évidemment, mais Thomas, c'est facile de...
Après, t'es pas n'importe qui, toi.
Ah, c'est un peu bon, un peu facile. Tu mets Rico, je sais pas si vous vous rappelez de Rico, qui était anciennement chroniqueur sur le rugby show, c'est pas la même chose.
Moi, Thomas, honnêtement, je suis pas forcément d'accord avec toi. Évidemment qu'on a une génération avantageuse et qu'on pourrait appeler dorée, même si je pense que moi, la vraie génération dorée, elle est en train d'arriver et elle sera mature à 100% dans les années à venir et notamment en 2027. Et moi, je pense qu'il ne faut pas enlever son crédit à Fabien Galthié. Il a pas juste fait des bonnes performances parce qu'on a une génération dorée. Encore une fois, il récupère l'équipe de France en 2019. On est bien dans la merde. Et il faut savoir aussi que c'est lui, déjà, pendant la Coupe du Monde 2019, il était adjoint de Brunel, mais Brunel avait déjà perdu la confiance du vestiaire. Donc, c'était déjà Galthié qui était un peu aux mains des opérations. Et justement, il a parfaitement géré cette transition avec un mélange d'expérience et de joueurs qui étaient en forme sur le moment, comme il aime bien le répéter. Et moi, je trouve que c'était pas du tout évident et qu'il a pas juste surfé sur une génération d'or.
Et il y a un truc hyper important aussi, on n'arrête pas de parler de la mission fédérer, rassembler, partager. Galthié, il a quand même un projet de jeu hyper lisible. En conférence de presse, il n'y a jamais un conflit avec les journalistes. Et je pense que pour la plupart des supporters, c'est hyper agréable de se retrouver dans ce contexte où tu comprends tous les choix de l'entraîneur. Ils sont expliqués, ils sont disséqués. Le mec, il te parle avec des chiffres. Il ne te parle pas juste avec « ouais, c'est parce que je l'ai dit », un peu à la Eddie Jones, par exemple, qui, lui, est en conflit permanent avec les journalistes. Et ça, c'était quand même génial.
Les gars, on a parlé de notre défaite en quart de finale en 2019, de nos années un peu tristes avant l'arrivée de Fabien. On a discuté également du chemin parcouru dans ces 4 dernières années avec Fabien Galthié et de sa mission,
mission
réussie, fédérer, partager, rassembler, qui sont d'ailleurs les valeurs du rugby show. Ça, on ne l'oublie pas. Et je vous propose tout de suite, messieurs, pour conclure sur cette partie 1 du bilan des années de Fabien, d'ouvrir le petit cadeau que nous a envoyé unbonmaillot.com. Le concept de... Le concept de un bon maillot, si vous ne connaissez pas, vous commandez en gros un coffret mystère, vous choisissez votre taille en ligne et eux s'occupent de vous envoyer un maillot. Voilà, vous ne savez pas quel maillot vous allez recevoir, c'est une surprise. Évidemment, vous le payez moins cher que si vous l'achetiez officiellement dans la boutique. Ils ont plein de genres de coffrets, des maillots mystères classiques, des maillots mystères premium, qui sont évidemment les maillots de l'année en cours, des tenues mystères, des shorts mystères. Il y en a pour les papas, il y en a pour les mamans, il y en a pour les enfants, il y en a pour qui vous voulez. Je crois d'ailleurs qu'ils ne font pas que du rugby. Je crois qu'il y a du basket et du foot, Elios, c'est pas ça?
Ouais, exactement. Moi, j'ai découvert ça via mes amis footballeurs et du coup, j'ai voulu répliquer ça avec mes amis rugbyman. Et honnêtement, j'adore le concept. Ça permet de créer un moment vraiment super convivial et super super marrant quand tu offres le cadeau ou alors que quand tu te l'offres à toi-même, tu vois, parce que
ouais, Il faut savoir se faire plaisir.
Non, mais je dis ça parce que justement, notamment à l'anniversaire de Thomas pour ses 25 ans, je me suis auto-offert un maillot et je lui ai aussi offert un maillot à lui-même.
Ça a fait très plaisir.
Ça lui a fait très plaisir. Et justement, tu as cette petite excitation, cette petite adrénaline avant d'ouvrir ton maillot. Et au final, même si c'est un maillot d'une équipe que tu n'aurais jamais acheté, tu es toujours content d'avoir ce maillot parce que déjà, il est original.
Non, ça n'a pas intérêt à être un maillot de l'Angleterre ou de Sudaf, je peux te dire, ça va gueuler. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce coffret, Clément, mais si c'est un maillot de Sudaf, on va couper.
Après, ça peut toujours être réutilisable. Toi, tu l'enroules autour de ton paillasson, tu t'en sers comme pour t'essuyer tes chaussures en rentrant chez toi. Tu peux toujours faire du recycling, du recyclage, t'inquiète pas. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai eu le maillot du Stade français extérieur. J'ai le maillot du Stade français extérieur et je suis super content de l'arborer à chaque entraînement.
De l'arborer, j'adore ce mot, arborer.
Arrête d'intellectualiser ce débat, Elios.
J'aime pas du tout le Stade français, j'aime pas du tout leur maillot extérieur, mais qu'est-ce que je suis content d'avoir reçu ce maillot. Et honnêtement, merci à un bon maillot rugby de m'avoir offert cette opportunité de briller non seulement en troisième mi-temps et aussi sur le terrain avec mes coéquipiers du Rambouillet Sport Rugby.
Et bah, un bon maillot, justement, ils nous ont envoyé des boîtes, on va les ouvrir tout au long des prochains épisodes. Et c'est moi qui commence aujourd'hui avec super coffret. Juste pour que vous le sachiez, ça va vous faire sourire, le parrain de, enfin l'ambassadeur de pour la saison 2023-2024, c'est n'est autre que François Cros, l'ambassadeur de un bon.
Ça, c'est la classe.
Voilà, alors on est parti. Voilà comment se
prendre. Allez, le
je vous fais pas plus.
C'est sympa.
Je vous fais pas plus.
Je ne sais
pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça va être des réactions en direct.
Ah, oh.
C'est un maillot rouge.
Oh. Attends, on va essayer de deviner.
Ah, ça va être difficile.
Rouge, c'est un Toulousain, mais bon, c'est pas possible parce que t'es pour eux.
Parce que ça serait trop stylé.
Oh. Est-ce que ça serait pas un petit dragon? Non. Un dragon. Les dragons,
c'est des dragons catalans.
Les dragons catalans.
Ça, non, ça en vrai, c'est la classe. Bah, c'est
meilleure équipe de France de rugby à 13. Enfin, meilleur club de France en rugby à 13.
Et c'est le maillot de l'année, messieurs. C'est le maillot de cette année, d'ailleurs.
Oh, il est stylé, le maillot.
C'est ce que j'allais dire, parce qu'il faut préciser pour tous nos auditeurs. Donc, un bon maillot, ils ont trois systèmes différents. Ils ont le maillot premium, où c'est des maillots de l'année.
Quel bonheur.
Pendant la Coupe du Monde, il y avait les maillots de la Coupe du Monde. Et il y a aussi une option un peu plus économique qui coûte, je crois, 45 euros par maillot, où tu peux recevoir n'importe quel maillot de la saison précédente.
Et t'aurais pas fait la même tête si c'était le maillot de l'USAP, hein. Les dragons catalans, c'est la classe.
Non, en vrai, très très content, Bon, c'est mon premier maillot de rugby à 13, donc c'est pour ça que je dois remercier toute l'équipe d'un bon maillot, et plus particulièrement Laetitia d'ailleurs qu'on embrasse.
C'est ça.
Oh, merci Laetitia,
une bise. Trop bien.
En vrai, ça fait très plaisir et je l'arborerai prochain match de rugby qui, vous le savez, arrive très prochainement.
Non, mais en vrai, c'est trop la classe. Tu vas pouvoir faire le mal à l'entraînement. Tout le monde va te poser la question. Ah, oh, c'est quoi ton maillot, Clément? On le connaît pas, celui-là.
Normal, c'est un peu niche. C'est les dragons catalans.
Et tu pourras leur dire, toi, très fièrement, oui, je commence à mettre un peu rugby à 13. Je m'y intéresse de près
ou de loin. C'est la classe. C'est la grande classe.
Si vous voulez, on fait un épisode entier sur le maillot.
Hein. Merci au bon maillot pour ce super maillot des dragons catalans. Merci à vous, auditeurs du Rugby Show, de rendre ce projet toujours plus mémorable. On espère que vous avez aimé cette partie 1 du bilan des années Galtier. Et on vous invite très prochainement à écouter la partie 2 des années de Galtier. Mais surtout, n'oubliez jamais le Rugby Show. C'est chiant.
C'est pas vrai. Si. Non, mais la partie 2, elle va être tellement mieux que la partie 1, gros. Si t'as écouté la partie 1, il va falloir écouter la partie 2.
Rugby Show, Rugby Show,
ça va te donner très chaud.
Rugby Show, Rugby Show,
ça s'écoute entre poteaux.
Rugby Show, Rugby Show,
en métro ou au boulot.
Rugby Show, Rugby Show,
des débats et des pronos.
Rugby Show, Rugby Show,
bienvenue au Rugby Show.